Chapitre 32e. La résolution que je viens de prendre, chère maman, écrivait Ernestine de Beauménil sur son journal, est peut-être dangereuse, j'ai tort, je le crains, mais à qui, mon Dieu, demander conseil? À toi, tendre mère, je le sais, aussi est-ce en t'invoquant que j'ai pris cette étrange détermination. Oui, car il faut qu'à tout prix j'éclaircisse des doutes qui depuis quelque temps me mettent au supplice. Tout à l'heure, chère maman, je te dirai quels sont mes projets et pourquoi je m'y suis décidé. Depuis plusieurs jours, bien des choses se sont révélées à moi, choses si nouvelles, si tristes, qu'elles ont jeté mon esprit dans un trouble extrême. C'est à peine si je puis à cette heure mettre un peu d'ordre dans mes idées, afin de te faire lire au plus profond de mon cœur, bonne et tendre mère. Pendant les premiers temps de mon arrivée dans cette maison, je n'eus qu'à me louer de mon tuteur, de sa famille. Je ne leur reprochais qu'un excès de prévenance et de flatterie. Ces prévenances, ces flatteries n'ont pas cessé. Elles ont, au contraire, augmenté, si cela est possible. Mais mon esprit, mon caractère, et jusqu'à mes paroles les plus insignifiantes, tout est loué, tout est exalté outre mesure. Quant à ma figure, à ma taille, à ma tournure, à mes moindres mouvements, tout est non moins gracieux, charmant, divin. Enfin, il n'est pas au monde une créature plus accomplie que moi. La pieuse Mademoiselle Helena, qui ne ment jamais, m'assure que j'ai l'air d'une madone. Madame de la Rochegue me dit avec sa brutale franchise que je réunis tant de rares distinctions en attrait, en élégance, qu'un jour je deviendrai, malgré moi, la femme la plus à la mode de Paris. Enfin, mon tuteur, homme grave et réfléchi, la grâce de mon visage, la dignité de mon maintien, me donne une ressemblance frappante avec une belle duchesse de Longueville si célèbre sous la Fronde. Et comme un jour je m'étonnais dans ma naïveté de ressembler à tant de personnes à la fois, sais-tu, ma chère mère, ce que l'on m'a répondu? Cela est très simple. Vous réunissez les charmes les plus divers, mademoiselle. Aussi, chacun trouve-t-il en vous l'attrait qu'il préfère. Et ces flatteries me poursuivent partout, m'atteignent partout. Le coiffeur vient-il accommoder mes cheveux? De sa vie, il n'a vu plus admirable chevelure. On me conduit chez la modiste. À quoi bon choisir une forme de chapeau plutôt qu'une autre? Dit cette femme. Avec une figure comme celle de mademoiselle, tout paraît charmant et du meilleur goût. La couturière affirme de son côté que telle est l'incroyable élégance de ma taille que, vêtue d'un sac, je ferai le désespoir des femmes les plus citées pour leur perfection naturelle. Il n'est pas jusqu'au cordonnier, obligé, dit-il, de faire des formes particulières, n'ayant jamais eu à chausser un aussi petit pied que le mien. Le gantier, par exemple, est plus franc. Il prétend que j'ai tout simplement une main de naine. Tu le vois, chère maman, il s'en faut de peu que je tombe dans le phénomène, dans la curiosité. Oh, ma mère, ce n'est pas ainsi que tu louais ta fille, lorsque, prenant ma tête entre tes deux mains, tu me disais en me baisant au front, ma pauvre Ernestine, tu n'es ni belle ni jolie, mais la candeur et la bonté de ton âme se lient si visiblement sur ton doux visage que pour toi, je ne regrette pas la beauté. Et à ces louanges, les seules que tu m'aies jamais données, ma mère, je croyais. J'en étais heureuse, car je me sentais le cœur simple et bon. Mais hélas, ce cœur que tu as aimé ainsi, chère maman, est-il resté digne de toi? Je ne sais. Jamais je n'avais connu la défiance, le doute, la moquerie amère, et depuis quelques jours, ces tristes et mauvais pressentiments se sont tout à coup développés en moi avec une rapidité dont je suis aussi surprise qu'alarmée. Ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait quelque chose de dangereusement pénétrant dans la flatterie, car à toi, je dois tout dire. Bien que taxant quelquefois d'exagération les louanges que l'on me prodiguait, je m'étais demandé comment il se faisait pourtant que tant de personnes différentes, n'ayant aucun rapport entre elles, se trouvent si unanimes pour me louer en tout et sur tout. Il y a plus. L'autre jour, Madame de la Rochegue m'a conduite à un concert. Je me suis aperçu que tout le monde me regardait. Quelques personnes même passaient et repassaient devant moi avec affectation, Cependant, j'étais bien simplement mise. À l'église même, lorsque j'en sors, je ne suis pas sans voir que l'on me remarque. Et mon tuteur et sa famille de me dire « Vous avions-nous trompé ? Voyez quel effet vous produisez partout et sur tout le monde. » À cela, à cette évidence, que pouvais-je répondre, chère maman ? À rien. Aussi, ces louanges, ces flatteries commençaient, je l'avoue, à me paraître douces. Je m'en étonnais moins, et si parfois encore je les taxais d'exagération, je me répondais aussitôt. Mais pourquoi l'effet que je produis, comme dit mon tuteur, est-il si unanime ? Hélas, la cause de cette unanimité, on devait me l'apprendre. Voici ce qui m'est arrivé. Plusieurs fois, j'ai vu chez mon tuteur une personne dont je n'avais osé te parler jusqu'ici. C'est monsieur le marquis de Maillefort. Il est difforme, il a l'air sardonique, il ne dit à tout le monde que des méchancetés ou des douceurs ironiques, pire que des méchancetés. Presque toujours, cédant à l'antipathie qu'il m'inspirait, j'avais trouvé le moyen de quitter le salon très peu de temps après l'arrivée de ce méchant homme. Ces marques de mon éloignement pour lui étaient encouragées, favorisées par les personnes dont je suis entouré, car elle redoute, monsieur de Maillefort, quoiqu'elle l'accueille avec une affabilité forcée. Il y a 3 jours, on l'annonce. Je me trouvais seul avec mademoiselle Helena. Quitter le salon à l'instant même eût été de ma part une impolitesse trop grande. Je restais donc, comptant me retirer au bout de quelques moments. Tel fut alors le court entretien de monsieur de Maillefort et de mademoiselle Helena. Je me le rappelle comme si je l'entendais. Hélas, je n'en ai pas perdu un seul mot. « Et bonjour donc, ma chère demoiselle Helena, » lui dit le marquis de son air sardonique. « Je suis toujours ravi de voir mademoiselle de Beauménil auprès de vous. Elle a tant à gagner dans vos pieux entretiens. Elle a tant à profiter de vos excellents conseils, ainsi que de ceux de votre digne frère et de votre non moins digne belle-sœur. Mais nous l'espérons bien, monsieur le marquis. » Nous remplissons en cela un devoir sacré envers mademoiselle de Beauménil. « Certainement, » a répondu M. de Maillefort d'un ton de plus en plus sardonique. « À ce devoir sacré, vous et les vôtres, vous ne faillissez point. Ne répétez-vous point sans cesse et sur tous les tons à mademoiselle de Beauménil, vous êtes la plus riche héritière de France. Donc vous êtes, en cette qualité, la personne la plus admirablement accomplie. Donc la plus universellement douée. Mais, monsieur, s'écria mademoiselle Helena en interrompant monsieur de Maillefort, ce que vous dites là. Mais, mademoiselle, reprit le marquis, j'en appelle à mademoiselle de Beauménil elle-même, qu'elle dise si, de toutes parts, ne retentit pas autour d'elle un éternel concert de louanges, magnifiquement organisé d'ailleurs par ce cher baron, par sa femme et par vous, mademoiselle Helena. Charmant concert, dans lequel vous faites tous trois votre partie avec un talent enchanteur, avec une abnégation touchante, avec un désintéressement sublime. Tous les rôles vous sont bons. Aujourd'hui, simple chef de chœur, vous donnez le ton à la foule des admirateurs de mademoiselle de Beauménil. Demain, brillant solo, vous improvisez des hymnes à sa louange, où se révèle toute l'étendue de vos ressources, toute la flexibilité de votre art et surtout, l'adorable sincérité de vos nobles cœurs. Ainsi, monsieur, dit mademoiselle Helena en devenant rouge de colère sans doute, ainsi notre chère pupille n'a aucune des qualités, aucun des agréments, aucun des charmes qui lui sont si unanimement reconnus. Parce qu'elle est la plus riche héritière de France, répondit monsieur de Maillefort en s'inclinant ironiquement devant moi. Ayant cette qualité, mademoiselle de Beauménil a droit aux flatteries les plus outrageuses et les plus outrageantes, parce qu'elles sont mensongères et uniquement dictées par la bassesse ou par la cupidité. Je me levai et je sortis, pouvant à peine contenir mes larmes. Ces paroles, je ne les ai pas oubliées, ô ma mère, toujours je les entends. Oh, la méchanceté de monsieur de Maillefort a été pour moi une révélation. Mes yeux se sont ouverts, j'ai tout compris. Ses louanges de toutes sortes, ses prévenances, ses protestations d'attachement dont on m'accable, l'effet que j'ai produit dans quelques réunions et jusqu'aux flatteries de mes fournisseurs. Tout cela s'adresse à la plus riche héritière de France. Ah, ma mère, ce n'était donc pas sans raison que je t'écrivais l'impression douloureuse, étrange, que j'ai ressentie lorsque le lendemain de mon arrivée dans cette maison, l'on m'a si pompeusement annoncé que j'étais maîtresse d'une fortune énorme. Il me semble, te disais-je, que je suis dans la position d'une personne qui possède un trésor et qui craint à chaque instant d'être volée. Cette impression alors confuse, inexplicable, je la comprends maintenant. C'était le vague pressentiment de cette crainte, de cette défiance inquiète, ombrageuse, amère, dont je suis poursuivi sans relâche, depuis que cette pensée accablante est sans cesse présente à mon esprit. C'est uniquement à ma fortune que s'adressent toutes les marques d'affection que l'on me témoigne, toutes les louanges que l'on m'accorde. Oh, je te le répète, ma mère, la méchanceté de M. de Maillefort a du moins eu, contre son gré, un bon résultat. Sans doute, cette révélation m'a fait et me fera cruellement souffrir, mais au moins elle m'éclaire, elle explique, elle autorise l'espèce d'éloignement incompréhensible et toujours croissant que m'inspirent mon tuteur et sa famille. Cette révélation me donne enfin la clé de l'obséquiosité, des basses prévenances dont je suis partout et toujours entouré. Et cependant, chère et tendre mère, c'est maintenant que mes aveux deviennent pénibles, même envers toi. Oui, je te l'ai dit. Soit que l'atmosphère d'adulation et de fausseté où je vis maintenant m'est déjà corrompue, soit, peut-être, que je recule devant ce qu'il y a d'horrible dans cette pensée. Toutes les louanges, toutes les preuves d'affection que l'on me donne ne sont adressées qu'à ma fortune. Je ne puis croire à tant de bassesse, à tant de fausseté chez les autres, et faut-il te le dire? Je ne puis croire non plus que je vaille si peu, et que je sois incapable d'inspirer la moindre affection sincère et désintéressée, ou plutôt, vois-tu, chère mère, je ne sais plus que penser, ni des autres, ni de moi-même. Ce continuel état de doute est insupportable. En vain j'ai cherché les moyens d'en sortir, de savoir la vérité, mais à qui la demander? De qui puis-je attendre une réponse sincère? Et encore, maintenant pourrais-je jamais croire à l'insincérité? Ce n'est pas tout. De nouveaux événements sont venus rendre plus cruelle encore cette situation déjà si pénible pour moi. Tu vas en juger. Les amères ironiques paroles de M. de Maillefort, à propos des perfections que je devais réunir en ma qualité d'héritière, ont sans doute été répétées à mon tuteur et à sa femme par Mlle Helena, ou bien quelque autre événement que j'ignore, a forcé les personnes dont je suis entouré à hâter et à me dévoiler des projets auxquels j'étais jusqu'alors resté absolument étrangère et qui portent à leur comble mes incertitudes et ma défiance. Mademoiselle de Beauvenil, à cet endroit de son journal, fut interrompue par deux coups frappés discrètement à la porte de sa chambre à coucher. Surprise, presque effrayée, ayant oublié au milieu de ses tristes préoccupations le sujet de son dernier entretien avec sa gouvernante, l'orpheline demanda d'une voix tremblante « Qui est là ?»« Moi, mademoiselle, » répondit Madame l'aînée à travers la porte. « Entrez, » dit Ernestine, se rappelant tout alors et s'adressant à sa gouvernante. « Qu'y a-t-il donc ?»« Bonne nouvelle, excellente nouvelle, mademoiselle. Vous voyez, j'ai les mains en sang, mais c'est égal. » « Ah, mon Dieu, c'est vrai ?» s'écria Mademoiselle de Beauménil avec effroi. « Que vous est-il arrivé ? Venez, prenez ce mouchoir, étanchez ce sang. »« Oh, ce n'est rien, mademoiselle, » répondit la gouvernante avec héroïsme. « Pour votre service, je braverai la mort. » Cette exagération attiédit la compassion de Mademoiselle de Beauménil qui répondit « Je crois à votre courageux dévouement, mais de grâce, enveloppez votre main. » C'est pour obéir à mademoiselle. Peu m'importe cette blessure, car enfin la porte est ouverte. Mademoiselle, je suis parvenu à dévisser les pitons d'un cadenas, à soulever une barre de fer, j'ai entrouvert la porte et, comme je m'en doutais, elle donne dans la rue. Soyez sûre, ma chère l'aînée, que je saurai reconnaître... Ah, je conjure, mademoiselle, de ne pas me parler de sa reconnaissance. Ne suis-je pas payé par le plaisir que j'ai à la servir? Seulement que mademoiselle m'excuse d'être ainsi revenue, malgré ses ordres, mais j'étais si contente d'avoir réussi. Je vous sais, au contraire, beaucoup de gré de cet empressement. Ainsi, nous pouvons en toute certitude convenir de nos projets pour demain. Oh, maintenant, mademoiselle, c'est chose faite. Eh bien donc, vous me préparez une robe de mousseline blanche très simple, et la nuit venue, nous nous rendrons chez madame Herbault. et encore une fois, la plus grande discrétion. Que mademoiselle soit tranquille, elle n'a rien de plus à m'ordonner. Non, je n'ai qu'à vous remercier de votre zèle. Je souhaite une bonne nuit à mademoiselle. Bonsoir, ma chère l'aînée. » La gouvernante sortit. Mademoiselle de Beauménil continua d'écrire son journal.